podcast.com. Essaye ça.
Du 15 février. Martin, je te rassure tout de suite. Oui, j'ai appelé ma maman pour sa fête hier.
Bon, parfait. C'était mieux.
Écoute, vous étiez deux à me surveiller. Il n'y a pas de danger que je passe outre ce geste que tout bon fils pose envers sa mère. Puis moi, ben, vu que je suis un tout croche, puis je suis un ingrat, ben, je donne jamais de nouvelles à personne. Puis... Mais là, je m'améliore, puis je l'ai fait. Fait que vous pouvez être fiers de moi.
T'étais mieux.
Par contre,
cibolac.
Ah ouais, je sais. Par contre, une personne qui va être... cette personne, est peut-être fière d'elle, mais c'est de la fierté mal placée. Je parle de cette fonctionnaire qui écoute, elle travaillait à l'effort de vaccination. Sa job, c'était d'entrer des données dans le registre de vaccination du Québec pour le passeport vaccinal. Le problème, c'est que la madame était anti-vax, imagine-toi donc. Eh ben oui.
T'es pas sérieux.
Et devine ce qu'elle en a profité pour faire. Ben, elle s'est donné deux doses virtuelles de vaccin. Elle s'est attribué un passeport vaccinal qu'elle ne méritait pas. Et elle a fait la même chose pour une de ses amies. Puis le lendemain, ben, elle faisait la même affaire pour son père et sa mère. Donc, elle a sauvé ses proches en sacrifiant son emploi. Elle les a sauvés des affres du vaccin meurtrier. C'est complètement ridicule. Elle a plaidé coupable. Et bon...
Mais là, Frank, là, je sais qu'elle a eu des travaux communautaires puis toute la kit, mais...
200 heures, puis une amende de 1 000 $.
Mais t'es-tu d'accord avec moi, tu sais, que considérant... Là, je comprends, là, on est, tu sais, ça fait un bout que c'est pas mal fini, là, tu sais, puis qu'on reprend un semblant de vie normale avec... tu sais, la vie est devenue un genre de jeu avec obstacles, là, tu sais, il y a des conspis dans nos jambes, là, mais tu sais, on peut fonctionner pareil, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, t'es-tu d'accord avec moi que c'est ni plus ni moins qu'un slap on the wrist, puis qu'elle perdra pas sa job, puis, tu sais, c'est ça qui...
Veux-tu en parler de slap on the wrist? Parce que j'en ai. J'ai répertorié trois affaires qui nuisent, je pense, grandement au lien de confiance entre le public et le système de justice. Ça fait dur en maudit ces temps-ci, puis je pense qu'on doit ça aux libéraux, hein, avec notamment avec le projet de loi C-5. On se rappelle du bonhomme qui avait agressé des femmes et qui avait étiré les procédures jusqu'à pouvoir profiter de la loi C-5, parce que, dans le fond, en étirant les procédures, ils se sont rendus jusqu'où la loi C-5 prenait force. Et puis, ben, il s'en est tiré avec à peu près rien, une peine dans la communauté. Là, j'ai devant les yeux un monsieur qui s'appelle Sobhi Akra. Ce gars-là a agressé 8 femmes choisies au hasard dans les rues de Montréal. Ce qu'il fait, c'est que il s'approche de sa victime, il la tripote, il met ses mains où il n'y a pas d'affaires. Après ça, il se sauve en courant. Ok, il a fait ça à 8 reprises entre octobre 2017 et novembre 2018. Il y a 2 de ses victimes qui étaient d'âge mineur, donc c'est assez aggravant. Merci. Il a plaidé coupable en janvier 2022 à 5 chefs d'accusation. D'agression sexuelle, évidemment, et 3 chefs d'accusation de tentative d'agression sexuelle. Là, il attend toujours sa peine, puis qu'est-ce qu'on demande du côté de son avocat? Ben, on veut profiter de la loi C-5. Il veut purger sa peine chez lui, en vacances, à jouer au PlayStation, puis aller sur Internet, puis se faire des sandwichs, puis tu sais, c'est... On dirait qu'avec le projet de loi C-5, le message du gouvernement... notamment des libéraux, ben c'est que, ben écoutez, les agressions sexuelles, finalement, c'est pas si grave que ça. Les voleurs, les fraudeurs, on sacre ça en prison. Les agresseurs sexuels, bon, on a décidé, comme société ou comme gouvernement, que c'était pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. Fait qu'on décide que c'est une peine de, tu sais, confiner la personne chez lui, comme on l'a tous été pendant la pandémie, ça va être assez. Puis je sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 2 semaines, je vous parlais d'Alexis Dinel, qui lui aussi, en fait, c'est lui dont je parlais tantôt, qui a étiré les recours jusqu'à ce que la loi C-5 entre en force pour pouvoir purger sa peine. Je sais même pas si on peut appeler ça une peine, là, une petite punition à domicile. Tu sais, c'est comme ça que ça va se régler pour lui. C'est assez épouvantable de voir ça. Puis le pire, c'est que les conservateurs avaient durci les peines pour les agresseurs sexuels. Le gouvernement libéral les a adoucis. Moi, si j'étais Poilievre, je sauterais là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Là, j'irais exploiter cette affaire-là pour attaquer Trudeau, parce que pour vrai, c'est inacceptable. Ce gars-là, dont je parlais il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait pénétré dans l'anus une femme sans son consentement, parce que lui, dans le cours de la relation sexuelle, qui était juste jusque-là consentante, si j'ai bien compris, lui, il était rendu là. Il était rendu à pénétration anale, puis ben, moi, je suis rendu là, je fais ça. Ouais, mais elle veut pas, puis elle criait, tout ça. Ouais, mais moi, je suis rendu là. Fait que lui, il a décidé de se donner ce droit-là. Ça devient une agression sexuelle, puis violente à part de ça. Ben, 20 mois dans son salon, c'est ce qu'il va purger. Puis là, il y a d'autres cas assez décourageants que j'ai trouvé. Il y en a un, ça avait passé sous notre radar. En tout cas, je me rappelle pas qu'on en ait parlé. C'est sorti le 3 février dernier. C'est une marâtre, un peu comme dans Aurore, l'enfant martyr. Une madame qui a fait vivre l'enfer à son beau-fils. C'était pas son fils naturel. Il avait 11 ans. Et elle le battait régulièrement et elle le privait de nourriture. Elle, c'était de l'affamer puis de le faire souffrir. Puis à un moment donné, tu sais, l'instinct de survie, à un moment donné, ça rentre, là. L'enfant a essayé d'acquérir de la nourriture. Et comme punition, il a reçu quoi? Un coup de couteau sur la main. Et puis, ça n'a pas arrêté là. C'était pas suffisant d'avoir un coup de couteau sur la main. Elle l'a empêché de se soigner en prétextant que fallait économiser l'eau et le papier. J'imagine le papier de toilette. J'imagine qu'il voulait juste arrêter le sang. Non, saigne, puis souffre, puis soigne-toi pas. Un enfant de 11 ans, là, régulièrement battu, affamé, puis quand il essaie de prendre de la nourriture, elle l'a frappé avec un couteau. Tu sais, c'est juste... Il me semble que, moi, dans mes oreilles, ça sonne grave. Là, c'est assez violent, puis c'est envers une personne vulnérable, un enfant qui était sous son autorité, sous sa garde, sous sa responsabilité. Un enfant qu'elle aurait dû protéger, dont le devoir était de protéger. Ben, elle a décidé de le martyriser. Et ben, elle a eu 15 mois à purger chez elle, avec une petite probation de 2 ans assortie de quelques conditions, dont celle, évidemment, de ne pas communiquer avec sa victime, mais... affamer un enfant, le battre régulièrement et lui donner un coup de couteau lorsqu'il essaie de se nourrir pour survivre, ben ça équivaut à 15 mois à purger chez elle, en vacances, dans son salon. C'est ça que ça mérite dans le monde des libéraux de Justin Trudeau, là, avec le projet de loi C-5. Là. C'est ce que ça donne. Là. Je suis pas en train de dire que c'était ça l'intention, mais c'est ce que ça donne. Tandis que si tu fourres l'impôt ou si tu voles quelque chose, tu fais un crime qui n'est pas nécessairement violent, ben là, tu risques plus d'aller en prison. Il me semble que si on devait privilégier les peines à domicile, peut-être pour désengorger, soulager le système carcéral. On pourrait peut-être réserver ça pour ceux qui commettent des crimes qui sont pas violents. Mais apparemment, l'argent est plus important que la vie. L'argent est plus important que la santé mentale et physique d'un enfant de 11 ans. Donc, ben écoute, c'est ça qui va arriver. Elle va aller 15 mois chez elle en vacances. Puis, tu sais, c'est pas comme si... tu sais, vous vous dites peut-être... ouais, mais là, on connaît pas le procès. Peut-être qu'elle regrette amèrement, puis qu'elle elle s'est amendée. Peut-être qu'elle s'est inscrite à une thérapie de gestion de la colère ou quelque chose du genre. Non! Il n'y a pas de facteur atténuant qui pourrait expliquer cette peine-là. Tout au contraire, elle se pose en victime, elle, là-dedans. Un, elle nie les faits, puis deux, c'est elle la victime. Sa vie est un enfer, tu sais. C'est des circonstances aggravantes, ça. D'habitude, elle ne reconnaît pas son crime, elle ne reconnaît pas la gravité de son geste, ni même la nature de sa victime. C'est elle la victime. T'as rien appris, là. Tu sais, puis moi, j'ai parlé souvent, tu sais, j'ai critiqué souvent le système judiciaire américain qui était basé seulement sur la punition, la répression, puis aucunement sur la réhabilitation. Puis oui, je suis en faveur de la réhabilitation, mais Colin, à un moment donné, il faut qu'il y ait une volonté. Il faut que la réhabilitation semble possible. Tandis que là, même après avoir été reconnue coupable, elle se pose toujours en victime et elle nie les faits. Donc, il n'y a aucun espoir de réhabilitation, aucun semblant de volonté de régler son problème, là. Et la cour, le tribunal conclut que, ben, 15 mois chez elle en pénitence, ben, c'est assez. Fait, qu'est-ce qui va se passer dans 15 mois? Elle va sortir, puis si elle a l'occasion de poser encore ce genre de geste-là, ben, elle va les poser encore, puis elle va encore se croire la victime parce que sa vie est un enfer, parce que, je sais pas, l'enfant broye tout le temps, ou ben, elle va se trouver des raisons. Mais, tu sais, c'est quand il y a aucune espèce de d'admission de culpabilité ou de volonté de s'amender, puis aucun remords, il me semble que la prison s'impose. Ben non, ça a l'air que non. C'est pas comme ça que ça se passe au Canada. Puis c'est pas plus grave que ça. Les agressions sexuelles, puis la violence, ben, on a décidé du côté des libéraux qui ont passé cette loi-là que ben c'était pas grave. Vous savez que je suis pas un partisan du Parti conservateur. Puis je suis pas non plus partisan de leur espèce de mentalité là, à l'américaine, là, tough on crime. Tu sais, eux autres, ils sont plus sur la mentalité américaine, c'est-à-dire de punir, puis de sévir, puis d'être très sévère, puis la réhabilitation, on pense pas à ça. C'est un juste milieu, ça se peut-tu, là, entre les conservateurs qui se retiennent de pendre tout le monde et les libéraux qui prennent les agresseurs par la main et qui les envoient réfléchir dans leur chambre à se divertir sur Netflix, peu importe les coups que ça sera rendu, là. Tu sais, il doit exister un juste milieu quelque part, mais il n'y a pas de parti qui se rapproche ou qui a des chances d'aller au pouvoir qui semble proposer ça. On jongle tout le temps avec les deux mêmes partis. Ça a été longtemps ça au Québec, c'est encore ça au Canada. C'est dur de voir la logique là-dedans, là. Surtout quand on voit que des gens qui ont fraudé l'impôt ou qui ont volé des montants d'argent, eux autres, sensiblement, en tout cas, pas sensiblement, mais d'après ma perception, la plupart du temps, se ramassent en prison ou ont des sentences assez sévères. Puis on évoque souvent le manque de remords de ces gens-là. Mais là, dans le cas de cette marâtre-là, ça semble pas être un facteur pour décider de s'en foutre.
Là, moi, ce qui me dérange...
Vas-y.
Ce qui me dérange de cette affaire-là, c'est que je me souvenais de... Je cherchais des informations au sujet de quand est-ce que ça avait été voté, comment ça avait été passé, puis ainsi de suite. C'est le 15 juin 2022 que la presse canadienne faisait état du fait que ça avait passé. Donc, 206 élus qui avaient appuyé ces 5 contre 117 qui s'étaient opposés. Les libéraux avaient obtenu l'appui, évidemment, des néo-démocrates et des bloquistes. Les conservateurs ont tenté de tenir le fort, là, évidemment. Et ça découlait justement de promesses, entre guillemets, qui avaient été faites en 2015. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que là, ça donne l'impression, je précise, ça donne l'impression, je dis pas que c'est un fait, mais que il y a eu comme... C'est-à-dire que les avocats de la défense se servent d'un loophole slash la situation actuelle dans les centres carcéraux, dans le système de justice, parce que ce qui était présenté de ce projet de loi-là, et c'est pour ça que j'avais comme une distorsion dans ma tête, c'était qu'on visait à lutter contre la surreprésentation des Afro-Américains et des Autochtones dans le système judiciaire. L'autre affaire, c'était parce que c'était supposé d'amener une espèce d'allègement en lien avec les peines minimales contre la drogue puis certaines infractions qui pouvaient être liées aux armes à feu. Puis par armes à feu, je veux dire... Puis là, ben c'est rendu qu'on a des agresseurs sexuels qui vont ou des avocats d'agresseurs sexuels qui vont invoquer ça à tel point, ils ont tellement compris le système qui ont même stallé le processus judiciaire pour attendre que ça passe.
Oui, c'est
t'sais,
ça.
C'est fait que moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'au départ, ça a été présent. Tu sais, c'était une loi libérale. C'est pas une loi, mais c'est un projet de loi libérale, tu sais, qui faisait que le weed, tu sais, que ça gérait à titre de levier aussi contre certaines peines, tu sais, dont on voulait diminuer la peine minimale, tu sais, pour bien paraître, puis tu sais, aller chercher des votes. Finalement, ça passe. Puis là, ben, garde, c'est qui va en bénéficier, ou tenter d'en bénéficier? Ben, c'est des agresseurs, puis c'est des. M'excuse, là, mais des vidanges de même. C'est débile.
On a parlé beaucoup récemment de ce professeur qui a la fâcheuse habitude de mettre ses élèves adolescentes enceintes. Ben, je vais te parler d'un professeur qui, en 1997, a été condamné pour proxénétisme. Il manipulait des jeunes filles, puis il jouait un peu le rôle de papa gâteau. Là, c'est comme ça que ses victimes le décrivaient. Puis c'était un enseignant, je pense, de sciences ou d'histoire de sciences, je pense. Et même qu'il leur faisait faire leurs devoirs. Puis tu sais, des valeurs de bon père de famille. Mais by the way, t'sais, en passant comme ça, eh ben il les faisait se prostituer et il en récoltait les fruits. Puis il annonçait une agence d'escorte structurée. Puis lui, ben sa volonté, ben c'était que ces filles-là puissent faire ce travail-là en toute sécurité. Puis tu sais, puis regarde des affaires bidons là. Lui, évidemment, ce qu'il voulait faire, c'est profiter sexuellement de ces jeunes femmes-là et de faire de l'argent avec. Et c'est ce qu'il a fait. En 97, ça avait fait la manchette là, ça avait passé partout là, il y avait première page de journal là. Il y avait eu une peine de prison, je sais plus combien, pas grand-chose, genre 2 ans.
Il y a eu 2 ans, me semble.
Moi, je pense que c'est ça. Puis il a récidivé. La première fois, c'était avec, dit-on, des jeunes femmes de 17 à 19 ans, donc hein, dont au moins une mineure, tu sais, puis des jeunes. Et puis il a décidé de récidiver quand il est sorti après son accusation de proxénétisme et de tenir une maison de débauche. Il faisait ça dans un motel, genre. Il a été arrêté un mois plus tard avec 3 jeunes femmes au même motel du boulevard Hamel. Tu sais, hein, le boulevard Hamel, c'est la crème de l'hôtellerie là. Tu sais, c'est une belle place pour mourir d'une overdose de cocaïne ou ben faire venir des prostituées apparemment là. Ben pas apparemment, on le sait. Là, ceux qui vivent à Québec connaissent très bien les motels du boulevard Hamel, genre de motel où tu peux payer à l'heure là, des siestes accompagnées. 3 mois plus tard, il avait été arrêté avec 3 jeunes femmes au même motel. Il avait plaidé coupable aux accusations. Tu sais, puis en 98, encore une fois, il s'est fait prendre. C'est une agente de police qui s'est fait passer pour une jeune femme qui voulait travailler dans l'industrie du sexe. Et c'est ça, c'était une policière. Fait que il s'est fait pogner. Puis, je pense que cette fois-là, je pense qu'il y a eu 2 ans de prison, là, une affaire de même. Et puis, en 2003, après sa deuxième sentence de 2 ans moins un jour, ça, c'est rare que c'est fait au complet, là. En 2003, il a décidé, encore une fois, de retourner travailler parce que jamais, dans tous ces épisodes-là, jamais on a songé à lui enlever son brevet d'enseignant. Fait qu'il a appliqué à l'école secondaire Osias-le-Duc à Mont-Saint-Hilaire, à Montérégie. Puis là, il travaillait là à temps plein, sans problème. Il a travaillé là à partir de... C'est 2007. 2007, puis là, il a été évidemment en contact avec un paquet de d'élèves. Fait qu'on sait pas si... T'sais, là, il y a rien qui dit qu'il a récidivé une autre fois, mais tu sais... Peu importe qu'il ait récidivé ou non, il a été coupable de ces gestes-là dans le passé, amplement. Puis dernièrement, là, dans les derniers mois, là, on a décidé, hey, on dirait que ça a comme pas d'allure. On l'a vu dans le journal, lui, il s'est fait arrêter une couple de fois. Écoute, mon ami, on va mettre fin à ton emploi, mon Serge. Ah ouais? J'ai 64 ans, je prends ma retraite.
Fait que, ça n'a pas de sens. C'est hallucinant.
Il a travaillé dans le système scolaire pendant 20 ans alors qu'il avait été reconnu coupable à plusieurs reprises de proxénétisme avec des jeunes femmes dont certaines mineures. mineur. Tu sais, c'est Colin, ça fait pesant cette semaine là avec l'autre prof là, avec la semaine passée. Avec l'autre prof qui a impunément pu reprendre son emploi alors qu'il couchait avec ses élèves, ben lui, ses élèves, il couchait avec puis il les vendait en plus.
Et puis Frank, je veux dire quelque chose parce que je viens de voir Tata Queen a donné des informations additionnelles. Je capote de voir que l'incompétence s'est rendue tellement pas grave dans certains. On dirait en tout cas que ça a l'air tellement pas grave dans certains cercles. Que là, on est rendu qu'on appelle ça un loophole. C'est pas un loophole, c'est quelqu'un qui a pas fait sa job.
Non, c'est ça. C'est une erreur épouvantable. D'ailleurs, il y en avait des contrôles. Mais, là, de. Okay, vas-y.
Mais regarde, écoute, la personne qui était en charge à la commission scolaire, elle est interrogée là, aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est une regrettable. Je vous le dis, là. Ça va finir. On dirait que ça. On veut que ça finisse comme si la personne qui a fait l'erreur soit la victime de tout ça. Asti, c'est. Tu sais, je comprends là, qu'il y a des processus, des procédés, puis les backchecks, c'est pas simple. Puis dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui.
Dans son cas, là.
Ben, voilà, tu sais, moi, là, j'ai déjà eu un employeur auprès duquel j'ai passé tout le processus d'entrevue, puis avant, hey, c'est beau, c'est toi qu'on prend, on va t'envoyer l'offre d'emploi, puis les conditions, mais il faut qu'on fasse ton back-check avant. Parfait, pas de problème, voici mes infos, mon numéro, patati patata. Tu sais, je capote, on est rendu, sommes-nous rendus à un point où est-ce que lorsque quelqu'un fait une erreur lamentable, c'est on doit la victime. Ah, c'est effrayant, écoute, pauvre elle, hein, a fait une grosse gueule. Ah si, d'accord!
Moi, avoir un système de contrôle, là, c'est une chose, là, mais l'appliquer puis être compétent, c'en est une autre. La commission scolaire des Patriotes qui l'employait, là, ils en ont un système de vérification d'antécédents judiciaires, là. Puis ça, depuis 2008, là. Mais le problème, c'est que, tu sais, quand ils ont fait les vérifications, ben, il y a du monde qui est en congé de maladie, dont notre ami Serge. Puis, ben, on a oublié ce monde-là.
Quand t'es malade, Frank, t'es plus criminel. Quand t'es malade, t'es plus criminel.
En tout cas, quand t'es malade, ça vaut pas la peine de vérifier tes antécédents. Tu sais, puis il y a plusieurs personnes comme qui ont passé sous le radar. Là, puis là, évidemment, là, ils ont, une fois que le scandale est sorti, là, ils ont fait les antécédents. Puis lui, il était le seul parmi les je sais plus combien. Qui avait échappé à ce contrôle-là à cause de leur congé de maladie, ben lui, c'était le seul à avoir des antécédents. Mais Colin, c'est pas des petits antécédents, puis c'est pas comme si c'était inaperçu. Ça passait dans le journal! Plus qu'une fois, il était en première page, sa grosse photo de sa grosse face de pédo, Chris. Puis c'était pas assez. Non. Puis il était en vacances, en congé de maladie. Pas de vérification d'antécédents criminels pour lui. Puis quand il revient, vous m'avez pas vérifié, Moi, je continue à travailler. Fait qu'il a continué à être en contact avec des jeunes femmes, puis des jeunes hommes, puis des adolescents hein, pendant ce temps-là. Des ados, crime, c'est une école de secondaire, là. Puis, tu sais, c'est crime, ça. C'est pas genre une petite erreur de jeunesse quelque part. Non, c'est grave ce qu'il a fait. Proxénétisme, calice,
Tom Colomb.
Je comprends pas. Depuis 97 qu'il est connu des policiers, là, pendant 25 ans, là, il a pu continuer à exister sans qu'apparemment personne s'aperçoive de qui il était et de ce qu'il faisait, là. Ben, faut dire que il est rentré à l'école où il a terminé sa carrière. Bon, j'imagine que vous m'entendez plus.
Ce superbe dédoublement du show. Bon, voilà, t'es revenu, je pense. Je veux te conter une histoire vite faite, OK? Je travaille en informatique. Il y a une situation qui se produit au Québec. Il y a une grève chez une grosse entreprise qui a un gros centre d'appel. Puis, on doit impartir le centre d'appel pendant qu'il y a grève, OK? Longue histoire courte, il faut engager 200 agents de centre d'appel. Évidemment que quand tu as 200 personnes engagées super rapidement, ben il serait peut-être convenu que tu n'as pas le temps nécessairement de faire toutes les vérifications. Mais il fallait les faire pareil. OK? Puis il y a des entrevues, là. Tout le monde a été rencontré ou il y a eu une conversation au téléphone. Ben, dans ce processus-là, là, il y a eu 13 employés qui ont été embauchés puis il y avait des dossiers criminels. OK? C'est quoi tu penses qui est arrivé, Frank? Ben, là, les personnes au RH qui ont été impliquées dans ça, ils ont été mis dehors. C'est tout. Fini. Next!
Mais je pense que personne n'a perdu sa job dans le cas de notre
ami. Non, sûr que non. Puis même, oh, c'est déplorable. Quelle triste histoire. Pauvre madame qui n'a pas fait sa job ou pauvre monsieur qui n'a pas fait sa job. Ouais, puis...
Le président du conseil d'établissement, Jean-François Lortie, a dit ça justement. Ah, c'est un cafouillage plus grand que nature. Regarde, image ça comme tu veux, là. C'est une grossière incompétence, un laxisme épouvantable. Mais il y a un point, c'est pourquoi le ministère de l'Éducation ne lui a pas retiré son brevet d'enseignant dès 97, dès qu'il a été reconnu coupable de proxénétisme avec des jeunes mineurs. Pourquoi, à ce moment-là, on lui a pas dit « OK, toi, ta carrière d'enseignant avec des jeunes, c'est terminé. » Non.
C'est alert.
Non, puis c'est pas comme s'ils n'ont pas eu d'autre chance. Là. Il s'est fait arrêter d'un mois plus tard. Puis après ça, une autre fois. Puis à chaque fois, jamais, c'est le ministère de l'Éducation. Est-ce que c'est parce que les ministères se parlent pas? Est-ce que la justice n'est pas capable de parler à l'éducation? Est-ce que c'est quoi le maudit problème? Le ministère de la Justice savait, là, puis le procureur savait que c'était un enseignant, ce monsieur-là. Là. Pourquoi est-ce que ça faisait pas, je sais pas, partie de la peine? Ou bien pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas communiqué avec le ministère de l'Éducation pour dire, hey, on vient d'accuser un de vos profs de proxénétisme et de relations avec des jeunes mineurs? Il a été reconnu coupable. On vous suggère fortement de lui enlever son brevet d'enseignement afin qu'il ne travaille plus jamais en contact avec des jeunes. Non. Nous autres, on a fait notre job. Il y a eu sa petite sentence bonbon, puis on se lave les mains, c'est réglé, puis on se fout de la suite de ce qui va se passer après. Ben, ce qui s'est passé après, c'est que non seulement il a récidivé, mais il a continué de travailler à l'école sans être inquiété, à retirer un plein salaire, à même profiter de congés de maladie pendant 3 ans, puis à travailler à temps plein après ça, jusqu'à ce qu'on allume à ses 64 ans en 2022 là, c'est le 2 décembre 2022, il dit, oh, vous voulez me mettre dehors pour toute la vie de merde que j'ai menée, ben je prends ma retraite.
Frank, les véhicules de police, ils ont des œils magiques à côté de leur gyrophare pour checker ta plaque puis savoir si t'as des étiquettes pas payées, mais nous autres on réengage un prof qui s'énerve. Puis on le remet dans une classe, puis on lui donne tous les avantages qui viennent avec. Mais oui. Si tu stationnes quelque part, par exemple, puis t'as pas payé un ticket de parking de 80$ à Québec l'année passée, ils vont mettre un sabot de Denver sur ton char. C'est malade. C'est débile.
On voit que enlever de l'argent à l'État ou devoir de l'argent à l'État, c'est beaucoup plus grave que de voler l'enfance de quelqu'un, de battre un enfant, l'empêcher de manger et le blesser avec un couteau. C'est plus grave que de agresser des femmes dans la rue. C'est plus grave que de pénétrer quelqu'un sans son consentement puis de façon violente et douloureuse. C'est pas grave, mais touchez pas notre argent. Puis si vous nous en devez via des taxes comme des tickets de parking, ben ça c'est grave par exemple. Ça on va sévir puis vite. Puis on va s'arranger pour être capable de vous trouver au moindre scan d'un véhicule de patrouille. On va savoir exactement votre passé de mauvais payeur. Mais le ministère de l'Éducation et les écoles ne sont pas capables de savoir, d'apprendre que quelqu'un, qu'un de leurs profs qui est employé à temps plein, qui bénéficie de tous les avantages, est aussi un proxénète qui l'a récidivé toute sa vie et qui même... fût-il été en première page de journal avec sa grosse face de proxénète, on n'est pas capable d'allumer là-dessus. On n'est pas capable de transmettre l'information au ministère d'Éducation, ou peut-être pire encore, peut-être que l'information s'est rendue, mais on lui a pas enlevé son brevet d'enseignant de toute façon. Fait que, ben écoute, il a pu mener sa vie en toute impunité. Il est allé un peu en prison, là, des petites sentences bonbons, mais pas assez pour que ça lui enlève l'envie de récidiver. Et puis après ça, ben, il a juste continué sa job d'enseignant. jusqu'à ce qu'à 64 ans, on décide de le licencier. Puis encore là, il a déjoué le système. Ah, oh, vous voulez mettre dehors? Pff, retraite. Ha ha! Gagné! Ben oui, il a gagné. Le système a permis à ce trou de cul-là de gagner. Comme il a permis à cette mère cette belle-mère, cette marâtre de battre et affamer un enfant pour avoir seulement 15 mois purgé à la maison, dans le confort de son foyer, à écouter la TV puis à commander de la pizza. Comme le violeur va aussi se ramasser chez lui à jouer au PlayStation 5 tranquillement. C'est là, à un moment donné, je suis pas pour la peine capitale puis un système de justice à l'américaine, là. Mais on peut-tu, comme, juste un petit peu punir le crime, s'il vous plaît? On peut-tu essayer d'envoyer comme message de... On n'est pas en faveur des agressions violentes. C'est juste ça, Justin. Juste ça, Justin. Je comprends ce que tu essaies de faire, là, avec ton projet de loi qui est censé contrer la surreprésentation des Autochtones. On veut pas se ramasser comme aux États-Unis où les populations sont. Les populations des prisons sont presque majoritairement, ou si ce n'est pas majoritairement, de gens d'origine ethnique autre que blanche. Mais à un moment donné, là, qu'est-ce qui est plus grave, là? De passer pour raciste ou de laisser des agresseurs courir? Moi, j'ai l'impression que Justin Trudeau a décidé ça en se souciant des apparences, en voulant donner une image à son gouvernement d'un gouvernement inclusif. Et tellement inclusif qu'on y inclut les criminels violents, les violeurs, ceux qui commettent des crimes avec des armes à feu. On les inclut dans notre société et on les laisse fonctionner comme ça. Voyez-vous comment on est woke au Parti libéral? On fait une petite pause là-dessus.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Martin, as-tu quelque chose de plus réjouissant?
Non.
Ah. On va passer au travail.
Oh, ben non. Puis
je sais que tu vas finir avec une bonne nouvelle, fait que je sais qu'à la fin, on va finir avec un smile d'en face.
Ouais, mais ça sera pas... Ça annulera pas ce dont on va avoir parlé aujourd'hui. Puis écoute, c'est comme ça, hein, là, c'est l'actualité. Fait que ça fait partie de l'actualité, elle n'est pas toujours joyeuse.
C'est une journée comme ça.
Tu sais, ce dont je vais te parler là, c'est sûr que là, on va tout de suite tomber dans... Puis c'est facile et c'est pertinent aussi, là. Mais je te parle d'une étudiante à l'université qui s'appelle Olesya Krivtsova. Elle a 20 ans. Puis elle se promène avec un bracelet électronique à la jambe et elle court une peine. Elle encourt une peine de 10 ans parce qu'elle a fait des stories sur Instagram contre la guerre.
Ah, c'est une Russe.
Elle a partagé des stories sur Instagram. Elle en a publié elle-même. Là, actuellement, là, à cause de ça, elle n'a pas le droit d'aller sur Internet. Elle n'a pas le droit de parler au téléphone. Elle est en house arrest, là, je ne sais pas comment le dire comme il faut en français, là, confinée à résidence ou consignée à résidence.
Assignée à résidence, on le fait même.
Assignée, bon, voilà. Elle a aussi, sur la jambe, elle a un tatouage qui sur lequel on voit Vladimir Poutine, présenté comme une araignée. Et en russe, ce qu'elle a sur la jambe, ça veut dire « Big Brother is watching you ».« Big Brother te surveille ». Et ben c'est ça, tu sais, là elle est en attente, puis elle-même elle dit, c'est BBC qui a sorti ça, elle-même elle dit que, tu sais, même étant russe, elle pensait que c'était exagéré les trucs qu'elle lisait sur les emprisonnements de gens pour des tweets ou des affaires d'avant. Elle dit, moi j'ai toujours pensé, j'ai jamais pensé que ça pourrait arriver.
Elle se croyait dans un pays libre.
Ben, je sais pas si elle se croyait d'un pays libre, je le sais pas. Sauf qu'elle s'est toujours dit, elle a toujours pensé que c'était de la propagande. T'sais, pour pas que le monde le fasse.
Ben, mais tu sais jamais, parce que ça... le gouvernement russe passe son temps à mentir, fait qu'on sait jamais que...
Ben, c'est ça, tu sais. Oh ouais, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, écoute, ça remet, mettons que moi, dans mon cas, ça remet pas mal les affaires en perspective, là, tu sais, de broyage, de je suis banni de Facebook. Puis évidemment que le raccourci, j'ai pas le choix de le faire, tu sais. Ça me sidère, ça me dépasse. Quand, considérant que, tu sais, notre petite complosphère à nous autres, ben écoute, là, ça, c'est du broyage à pu finir à propos de paquets de gomme, puis de masques, puis de niaiseries comme ça. Tu sais, je te fais un parallèle. OK, elle, là, c'est une étudiante à l'université. Elle manque beaucoup de cours à cause de ça. Tu sais, je veux dire, c'est sa vie, là, est chamboulée de
elle a même un bracelet pour la tracer, c'est ça?
Oui, oui, absolument.
Ça a une sentence c'est plus grave que nos violeurs, là. C'est quelque chose.
Non, non, mais elle n'a pas eu de sentence encore. Là, elle est juste assignée à résidence, puis elle est en attente de se faire dire c'est quoi qui va arriver. Fait que c'est la pire peine qu'elle peut avoir, c'est 10 ans. 10 ans d'emprisonnement.
Fait qu'elle a même pas eu sa sentence, mais juste en attendant, ce qu'elle a en attendant, c'est pire que nos violeurs, là. Puis que la bonne femme qui bat son enfant. Oui. C'est épouvantable.
Oui, oui, dans ce sens-là, oui. Puis là, ben, je mets ça, je vais te mettre ça en relief avec un tweet hier d'une membre de notre complosphère qui évidemment, qu'on vit en dictature. Je suis une sataniste reptilienne, sorcière, illuminati, franc-maçonne de l'opposition contrôlée d'un bord et une complotiste extrémiste, covidiote, raciste, homophobe, transphobe, antisémite et misogyne de l'autre. L'avantage, c'est que je ne fais pas de myocardite. Ça, c'est Amélie Paul qui a tweeté ça. Puis là, tu lis ça, tu regardes ça, tu sais, de la victimisation. Puis là, vous m'appelez ici, puis vous m'appelez ça, puis ma vie, c'est donc pas facile. Puis depuis que Bernard, il est mort, puis blablabla. Puis là, tu mets ça en relief avec une fille comme t'as un peu cherché son prénom parce qu'il est difficile à dire, avec Olesia. Puis là, tu fais comme, aïe aïe. Ah! Fucking yoï. Puis là, Olesia n'est pas en Ukraine, là. Elle ne fait que dire son opinion au sujet du fait qu'elle n'est pas d'accord que son pays ait envahi l'Ukraine. Là, tu sais, bon, là, puis Poutine va nous sauver des nazis, puis tu sais, la patente, là. Sauf que, fondamentalement, tu sais, on pourrait sortir un paquet d'exemples, Frank, puis dire que, regarde, il s'est passé des choses à Cuba, il s'est passé... Il y a plein d'endroits où la liberté d'expression puis le dictatoriat existent. Mm-hmm. Mais ça, là, tu vois, je trouve que c'est une belle façon de mettre tout ça en relief, c'est de dire, tu sais, t'as d'un bord, t'as Amélie Poul qui fait des clics avec des tu sais, écoute, là, il y a 75 000 personnes qui ont vu ça.
Là.
Ouais. Pendant qu'il y a puis écoute, je lis les commentaires. J'ai lu plutôt les commentaires sous le tweet d'Amélie. Puis j'ai l'impression que je lis des commentaires de zombies hypnotisés par cette personne là puis ses propos puis les affaires qu'elle fait. Ben non, c'est ça. Écoute, je voulais en chercher on m'a accusé d'adhérer à QAnon, mais pas encore à la taille plate. Moi, je te fais confiance, Amélie. Reste modeste, Amélie. Tu sais, Amélie, je t'aime comme... mais c'était de l'ironie. Là. Tu sais, Amélie, je t'aime comme t'es. Ha, ha, ha. Tu sais, puis pendant ce temps-là, il y a une fille qui étudie en Russie. Elle a 20 ans. Elle a un petit tatou, puis elle a fait des stories sur Instagram. Elle a un bracelet après la cheville, puis elle a encore 10 ans de prison. Puis toi, Amélie Paul, tu peux te présenter sur les médias. Là, je parle d'elle parce que c'est elle que j'ai en tête. Il y en a plein d'autres, j'aurais pu nommer. Là. Toi, Amélie Paul, tu as une tribune sur laquelle tu peux dire n'importe quoi. Tu peux t'associer à des charlatans comme Dies Gis qui dit au monde que c'est possible de vivre sans manger puis respirer. Puis c'est mettez ça en perspective, tout le monde, là. Tu sais, je le sais que vous, on le fait tout le temps, puis on n'arrête pas de dire aux complotistes, ben ouais, mais tu dis qu'on est en dictature. Hey, avec les nouvelles qu'on vient de dire là dans la première demi-heure, là, tu trouves-tu que c'est du gros dictatoriat qu'on a ici, là?
Non, mais
tu
peux être capable de mettre des choses en perspective, là. C'est pour ça qu'ils se comparent aux Juifs pendant l'Holocauste, là.
Ben oui, tu sais, ça n'a aucun espèce
zéro
de sens.
Zéro jugement, zéro connaissance, zéro compréhension, là. C'est du fanatisme, là.
Non, c'est exactement ça. Puis, Je sais pas, là, ça, l'histoire de l'Oxia, ça m'a rentré dedans parce que, écoute, tu sais, c'est pas comme si c'était, je sais pas, là, tu sais, c'est pas une Uber militante.
Ah, pas lancer des cocktails Molotov sur la place rouge.
Mais ben non, c'est ça, c'est juste une fille qui va à l'université, qui doit essayer de s'arracher une vie, puis d'améliorer son sort, puis d'étudier, puis tu sais, tout le kit, puis visiblement, ben, est un peu revendicatrice, là, tu sais, pour avoir un... Tu sais, il y a une marge quand même entre une story Instagram puis un tatouage.
Ben, là, elle a une conscience, puis elle l'a exprimée contre la guerre, tu sais, je veux dire, dans n'importe quel pays civilisé, tu peux manifester contre la guerre. Quand les États-Unis partent en campagne sans aucune raison contre l'Irak, ben, il y a un paquet de monde qui allait manifester. À l'époque du Vietnam, puis on les sacrait pas en prison parce qu'ils manifestaient leur désaccord. Encore aujourd'hui, tu sais, il y a même des gens qui manifestent contre le fait que on vienne en aide à l'Ukraine. Tu sais, on manifeste pro-Russie, on manifeste en faveur de l'ennemi traditionnel des États-Unis, et puis on se fait pas plus mettre en dedans, on se fait même pas farmer à gueule, parce qu'on a le droit à la liberté d'expression au Canada et aux États-Unis, dans des sociétés libres, et ces gens-là vont, c'est ça qui est le plus aberrant, ces gens-là qui arrêtent pas de se plaindre qu'on vit en dictature au Canada, appuie une vraie dictature en Russie. Tu sais, c'est complètement fou. Je pense encore au cabochon là, qui se présente pour le Parti conservateur, là, qui disait que les Ukrainiens étaient trop stupides pour comprendre que la Russie devait entrer en guerre. Puis, tu sais, c'est, comment il s'appelle? Coty? Méchant crétin.
Lulu,
c'est ça.
Ben oui, puis tu sais, c'est pour ceux qui le cherchaient, là, apparemment, qu'il aurait... on l'a retrouvé! On le cherchait! Puis on l'a retrouvé, il est sur LinkedIn avec évidemment un beau profil bien scrubbé, n'est-ce pas, avec aucune trace de ces niaiseries qu'il a dit. Mais regarde, tu vois, Bruno, il y a un bon point, ils vont te répondre, ouais, mais il y a des degrés différents de dictature. Regarde, au Québec, là, les conspis là, qui se disent en dictature, là, c'est vrai qu'il en existe une dictature, OK? C'est la dictature de votre nombril. Vous êtes régi par les désirs de votre propre petit nombril. Invariablement et à propos d'absolument tout. Tout ce qui vous est présenté, tout ce qui vous est proposé, toutes les initiatives qui sont mises de l'avant, jamais vous vous posez la question « quel bien ça va faire aux autres ?» Vous vous posez toujours la question « quel tort ça va vous faire à vous autres ?» C'est ça votre dictature. Vous vivez sous le dictatoriat de votre hostie de nombril.
Au moindre inconvénient, ils sont victimes d'une dictature. Alors que le Canada est un des pays les plus libres au monde. On est plus libre ici même qu'aux États-Unis, le pays de la liberté. On est un des pays où on jouit d'une plus grande liberté sur la planète Terre. Puis ils trouvent le moyen d'appeler ça une dictature. Il y a pas de degré de dictature qui correspond à ce qu'on vit, là. Zéro.
Il y a pas de dictature light, puis de dictature menthol, puis de dictature vanille, puis de dictature Rocky Road, là. Une dictature, c'est une dictature. Des degrés, il y en a pas. Puis de toute façon, même, garde, parce que là, tu sais, l'autre exercice que tu fais quand tu réfléchis à des affaires comme ça, tu te dis, OK, tu sais, parce que ça donne rien, allez pas faire ça, tout le monde, ça donne absolument rien. Je vous le dis, là. Mais mettons, là, tu t'en irais sur le compte Twitter, whatever, les médias sociaux d'Amélie Paul, puis tu lui partagerais cet article-là. Ben, vous le savez comme moi, ça va être quoi les réponses? Ça va être pas vrai, c'est un article commandité, c'est les médias. Tu sais, ils ont construit un système idéologique dans lequel tout ce qui n'a pas d'allure qu'ils disent peut être expliqué. T'sais. Ah, ben c'est parce que le journaliste est à la solde de... Ah, c'est parce que elle ne comprend pas qu'est-ce que Poutine est en train d'essayer de faire. C'est pour elle que Vladimir y fait ça. Tu sais, il y a tout un système, puis encore une fois, je suis fatiguant, c'est ma marotte, je le sais. Moi, quand je regarde ça aller, ce qui me fait continue de me faire peur, c'est la dystopie. C'est que, pas de notre vivant, mais tu sais qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, ben le monde va décider de coaguler juste avec du monde qui pense ou qui adhèrent aux mêmes idéologies qu'eux autres. Genre, là, c'est un exemple hyper exagéré, là. Mais genre, tu sais, il y aurait des... on va tous se ramasser à quelque part ensemble, puis on va avoir nos écoles, puis dans nos écoles, ben, on va enseigner ce que nous autres, on sait qui est vrai. Ce que nous autres, on sait qui est faux, tu sais. Ils sont pas allés sur la Lune. Puis 9-11, c'est les Américains qui ont fait ça, les enfants. T'sais, moi, c'est ça qui, c'est surtout ça qui m'effraie. Puis je suis pas capable de me dire, ouais, mais Mart, relax, ça sera pas de ton vivant. Ouais, puis c'est pas parce que c'est pas de mon vivant que je devrais m'en laver les mains puis pas m'en inquiéter, tu sais. Même si j'ai apparemment pas de dépendance, de descendance plutôt. Fait que
Descendance connue en tout cas. Là.
c'est ça ma vieille joke. Mais blague à part, tu sais, c'est important de temps en temps de se remettre des choses en perspective comme ça, parce que c'est pas parce que ça arrive pas ici que, tu sais, on devrait pas s'en inspirer ou en tout cas réfléchir à ça, ou que ça devrait pas nous faire un peu avancer idéologiquement. Écoute, ça va pas bien. Tu sais, je suis bien philosophe aujourd'hui. C'est spécial pareil parce que, regarde, d'un côté, Frank, on n'arrête pas de dire, hey, là, le système scolaire est de la merde, il engage des profs qui s'énervent, puis tu sais, tu le quittes après ça, des sentences bonbons pour des maraudes, puis tout. Puis, guess what? Malgré tous ces travers-là, on est fucking chanceux. On est fucking chanceux parce qu'on vit dans une société où on a le droit d'avoir un podcast puis d'être sur Twitch puis de le dire que ça n'a pas d'allure.
Puis dire ce qu'on veut.
Imagine-toi notre show en Russie. On est mort.
Ah, ben oui, c'est sûr qu'on est mort. À moins qu'on se ferait les porte-parole du Kremlin. Là, on serait correct. Là. Mais on serait quand même très surveillés. Hey, je veux juste dire un détail que j'avais oublié tantôt, puis je trouve qu'il est quand même...
Moi, si j'avais oublié un détail, on est plus que ça.
Ouais, c'est bon. Les avocats de la défense sont toujours très créatifs et toujours très pronts à utiliser les failles du système comme la loi C-5. Écoute le prétexte pour celui qui agressait les femmes en pleine rue. Là. 8 femmes, là, tu sais, il arrive en courant, il est taponne, il met sa main dans les culottes, puis il se sauve. La couronne avait réclamé 22 mois de détention. Ce qui, tant qu'à moi, n'est pas beaucoup non plus, mais au moins, tu sais, c'était de la détention. La défense, eux autres, demandaient 6 mois d'incarcération. Sais-tu pourquoi? C'est quoi le prétexte de l'avocat de la défense qui est très créatif et qui sait utiliser les failles du système?
Ben, je dirais, vite fait de même, parce que je veux pas divulgâcher, je l'ai lu, mais j'aurais probablement dit, parce qu'il a déjà purgé une partie de sa sentence. Là,
c'est parce qu'on veut pas lui nuire dans sa demande d'immigration au Canada.
Ah, OK, celui de ce matin, ça. OK, le récent.
Oui, celui Accra, celui qui agresse des femmes et se sauve en courant. Il a fait ça avec 8 victimes. Parce que écoute, s'il est en prison, il pourrait pas faire ses démarches, puis il pourrait être obligé de se faire expulser à son pays d'origine, le Liban. Écoute, moi, j'en ai parlé pas plus tard que cette semaine, peut-être la semaine passée, d'immigration. Moi, je suis du type... À bras ouverts, amenez-en du monde, des gens qui fuient la misère, la guerre, puis amenez-les dans notre pays. En plus, on a besoin de monde, on a une pénurie d'emplois, on fait pas d'enfants, tu sais, puis c'est toujours pensé que c'est notre devoir d'être humain d'accueillir tous les immigrants qu'on est en mesure d'accueillir dans notre société sans l'appauvrir ou même nuire à ces propres gens-là. Mais, tu sais, lui, je suis comme tenté de dire, on peut-tu le calisser dans l'avion?
Mais là,
des agresseurs sont en masse, là. C'est des travailleurs qu'on a de besoin. Des agresseurs sont nassés. Fait que je peux pas croire que le juge va tenir compte de ça. Oh non, il faudrait pas nuire à tes tentatives, à tes démarches de venir t'installer ici pour devenir un vrai agresseur canadien. Tu sais, je colline. Moi, il me semble, ça se dit, oh, c'est-tu vrai? Si on te met en dedans, ça va nuire à ta... Tu vas toujours retourner dans ton pays. Ben, c'est-tu quoi? Tu vas y aller en dedans. Mais non, ça a l'air que c'est un facteur atténuant. Tu sais, oh non, faut pas y nuire.
Frank, pourquoi qu'on mettrait un gars dehors à cause de ça? Tu peux enseigner.
Ben oui, c'est vrai. Tu peux enseigner, tu peux mettre tes élèves enceintes ou vendre titre de prostituée et poursuivre ta carrière jusqu'à la retraite. Fait que, Pourquoi on n'accueillerait pas à bras ouverts quelqu'un dont on sait qu'il est un agresseur sexuel multirécidiviste qui n'a à peu près aucune chance réhabiliter? Pourquoi? Voyons donc, rentre chez nous, viens-t'en. Tu sais, Colin, il est après me faire regretter mon pas à ce point-là. Mais il est presque après me faire regretter mon opinion sur les immigrants. Une chance que j'ai une raison qui passe par-dessus les émotions, qui me fait dire c'est loin d'être une majorité, puis la majorité des immigrants cherchent juste une place pour vivre en paix. Ils vont pas venir ici, ils viennent pas ici pour commettre des crimes. Mais lui, oui! On le sait, en plus! C'est fait pogner! On peut-tu leur colisser dans un avion? Dans soute à bagages, à part de ça, avec des chats qui miaulent apeurés? Dans la même cage qu'un chat, tiens, pas dégriffé, qui panique.
Ouais, là, tu vas avoir des problèmes avec Genève un peu, là. Mais il reste
c'est vrai que les chats ont des droits.
C'est ça. Mais, fait que, regarde, c'est sûr que c'est pas. Regarde, je fais un petit callback aussi sur un sujet qu'on a abordé hier, tu sais. Tu as entendu parler du scandale du hockey junior, toi, depuis hier, qu'on en a parlé?
François Legault a réagi, là. Il demande des comptes à la LHJMQ, puis il dit que c'est dégueulasse. Ben ça, François, on l'avait compris que c'était dégueulasse. Je pense que tout le monde qui a une tête sur ses épaules trouve ça dégueulasse, à part le tata qui est allé tweeter à l'autre qu'elle avait un agenda féministe ou je sais pas quoi, puis de pas toucher au hockey. Si on veut se violer en joueur de hockey, on va se violer, puis les jeunes veulent se violer, on va y laisser se violer, tu compris, maudit féministe?
C'est rien qu'un bâton de hockey. C'est juste un bâton de hockey. Voyons, c'est pas grave, là.
C'est des joueurs de hockey, là. T'en regardes pas. Femme! Tu sais, c'était vraiment ça, le sens de son commentaire. Là. Mais à part lui, je pense qu'on a tous compris que c'était dégueulasse et inacceptable. Là, c'est bien beau de demander des comptes. Là. Ben, tu nous parleras, mec, que t'aies quelque chose, François. Mais que t'en aies eu des comptes, puis mec, que t'aies une bonne idée pour remédier à ça. Parce que pour l'instant, rien n'indique que ça va arrêter.
Mon Jack qui dit la réponse de Gilles Courteau hier à RDS était à 100% scriptée par leur firme de PR. Ben oui, c'est sûr. Puis de toute façon, regardez là, ma prédiction, là, tu sais, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait d'autres victimes qui se présentent puis qui viennent au bâton, puis qu'il y ait des joueurs de la NHL, un Crosby, un peu importe, des gens dont la réputation est sans tâche qui sortent puis qui disent arrêtez ça, ces hosties de patentes barbares-là. Sauf que la réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans la décision que le juge a rendue, puis je ne dis absolument pas que le juge a un agenda, quel qu'il soit, sauf que ce qui va arriver, c'est qu'à cause de la décision que le juge a prise, ben là, ça va tout, chacun des cas individuels, il va avoir moins de monde, ça va mourir dans l'œuf, ça va être présenté comme, écoute, les 12 travaux d'Astérix, puis là, il faut t'appeler un tel, puis là, ben, ils vont te rencontrer, ils vont prendre ta déclaration, ça va être un affidavit, puis là, on va monter un dossier. Regarde, il y en a qui vont être morts avant que ça voie le plancher d'une cour de justice, puis ça va juste continuer. Boys will be boys, puis regarde, là, c'est pas plus grave que ça.
On va laisser ça escalader et empirer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meure ou qui ait des séquelles à vie. Puis Gilles Courteau, qui est le président de la LHJMQ, pour ceux qui l'ignorent, c'est pas lui qui va aller au bat. Gilles Courteau est un pleutre, est un hypocrite. J'ai eu une expérience avec Gilles Courteau. Je l'avais booké, je l'avais invité à mon émission. Il avait accepté de venir à mon micro lorsque je faisais des affaires publiques à la radio FM, la vieille radio Intercuite. Il avait accepté l'entrevue, mais après ça, il m'avait recontacté pour avoir les questions à l'avance. Il voulait savoir d'avance quelles questions j'allais y poser. Et on fait pas ça dans la vie. Les journalistes et les animateurs qui sont intègres, généralement, ne font pas ça. On ne donne pas les questions à l'avance à l'invité. Mais vu que lui est juste capable de lire des feuilles scriptées, il tenait mordicus à avoir les questions d'avance. Ben j'ai dit, moi, M. Courteau, je procède pas comme ça. Je donne pas les questions à l'avance. Vous êtes le président de la LHJMQ, vous avez toutes les réponses en tête, vous devriez être capable de me répondre à toutes mes questions, ou pire, décliner mes questions, mais je vous les donnerai pas d'avance. Vous allez les apprendre pendant l'entrevue. Il m'a informé qu'il ne ferait pas l'entrevue si je lui donnais pas les questions d'avance. Bye, M. Courteau, on fera pas l'entrevue. Puis là, ça, c'était au téléphone, à la pause, avant de revenir en onde au moment de l'émission, au segment qui lui était consacré. Et j'ai utilisé ce segment-là juste pour dire, pour dénoncer ce que je viens de dénoncer publiquement. Monsieur Courteau devait nous rencontrer, avait accepté une demande d'entrevue que je lui avais faite. Il m'a demandé les questions d'avance, ce que j'ai refusé. Il a décidé de se cacher. Donc, Monsieur Courteau, Monsieur Le Pleutre, il n'y aura pas d'entrevue avec vous aujourd'hui. Voici une chanson. J'ai passé une toune dans mon show talk. Si je me rappelle bien, c'est comme ça que j'ai fait ça. J'ai mis une toune, mais il n'y a pas eu d'entrevue avec Gilles Courteau parce qu'il n'avait même pas le courage d'affronter un petit animal du fin fond de l'Abitibi pour une entrevue qui ne s'annonçait pas comme une entrevue de confrontation. Non, non, lui, il va avoir les affaires d'avance. Il veut s'écrire un texte puis le lire. Mais Chris, change de job si t'es pas capable de faire face. Gilles.
Ouais, mais regarde, ça fait longtemps de ça, puis il est encore
apparemment, ben oui. Il est aussi muet, puis aussi incapable de répondre à des questions point pour point. L'idée est faite.
La job d'un commissaire, là, que ce soit Gilles Courteau, je veux pas dire, j'essaie pas de le défendre, au contraire, mais tu sais, la job d'un commissaire, que ce soit Gilles Courteau ou ben non, voyons, si pas le nommer dans la Ligue nationale ou de n'importe quel autre, Gary Bettman ou peu importe c'est qui, c'est d'être à la solde des propriétaires d'équipe. Fait que regarde, tu penses que les propriétaires veulent que ça sorte cette affaire-là? Non, il va s'écrire un beau texte, tu vas aller à RDS, là, puis là, regarde, on va spinner ça, puis tout va être bien beau,
bon, puis on va passer un autre appel. Qui va être lu un journaliste. Oh,
à la prochaine game, la bière, on la mettra 11 piastres au lieu de 12, puis garde.
Moi, je pense qu'il devrait aller s'acheter du courage, puis faire face à cette situation-là qui est épouvantable. Au moins la reconnaître, puis montrer au moins un semblant de volonté de remédier à ça, mais ça n'arrivera pas.
J'ai souvenance d'avoir lu quelque part, puis il y a des spécialistes de qui vont me corriger si je me trompe, mais il me semble que c'est sa dernière année comme commissaire. Fait que il y a deux façons de voir la chose. La première, ce serait de dire ben garde son leg pour être de faire le ménage là-dedans à sa dernière année à la présidence. Ou ben non, ben garde, bah tu me mêler de ça, je m'en vais cette année. Fait que regarde, ça va être la deuxième option qu'il va choisir, c'est sûr. Hey Frank, c'est le temps de la bonne nouvelle, là, ça va faire, on est trop dark, là. C'est pas, même s'il n'est pas déjà peut-être à la retraite, bon voilà. Fait que moi ça, je, en tout cas, j'ai souvenance que c'était clair que c'était sa dernière année. Peu importe, parlons de quelque chose d'un peu plus positif. Ça va t'interpeller un peu, Frank, parce que c'est une question que tu as posée fréquemment. Je te parle de récupération de piles pour véhicules électriques. Okay, ouais. Il y a une compagnie en Californie qui a trouvé une solution pour réutiliser ça et rentabiliser ça de un et de deux, que ça fasse œuvre utile. Ils ont été capables de générer des revenus $1 million l'année passée en vendant de l'énergie renouvelable stockée au réseau électrique de l'État de Californie grâce à 1300 batteries usagées provenant de véhicules électriques Toyota et Honda. Je te montre, j'ai des images pour vous autres. Je te montre de quoi ça a l'air, en fait. Tu vois, regarde, ça c'est leur setup, là. OK? Fait que c'est des cellules photoélectriques, évidemment, c'est des panneaux solaires. OK? Ça, c'est ce qui va capter, évidemment, l'énergie, qui va transformer en hydroélectricité cette énergie-là au moyen de ces panneaux solaires-là. Fait que comme tu peux voir, il y en a 3-4. Mais les batteries ne sont pas utilisées pour en générer plus. Elles sont utilisées pour en emmagasiner plutôt. Fait que là, tu vas voir, là, ce qu'il y a dans l'espèce de structure au bout des panneaux solaires, là, c'est là-dedans que sont stockées des piles, d'anciennes piles de véhicules électriques. Et c'est le surplus qui est stocké là-dedans. Donc, c'est pas que ça en génère comme... c'est plus que lorsqu'il ne fait pas soleil, exemple... ou que ça doit en passer. C'est un genre de passe-trou qui permet de les recycler de cette façon-là. Comme tu peux voir, c'est quand même une assez grosse...
Mais pour les piles fonctionnent encore, par exemple.
Non, c'est ça ne sert que de récipient à l'hydroélectricité qui est ramassée par les panneaux solaires. Elle est mise là jusqu'à temps qu'elle soit requise.
Ça, mais je veux dire, elles sont finies, encore en mesure d'emmagasiner l'énergie, là.
Ouais, les usés par les longues années passées à alimenter les voitures, les batteries ont néanmoins continué à être utilisés pour stocker l'énergie solaire et éolienne excédentaire lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas.
Ah, crime, c'est cool.
Fait que, non, écoute, là, on parle de 1300. Il doit y en avoir des millions, oui, de ces piles-là. Sauf que, encore une fois, c'est ce qui est mentionné dans l'article, au cours de la prochaine décennie, des millions de packs de batteries devront être démantelés, recyclés ou trouver une seconde utilisation dans une installation comme celle-là pour éviter qu'il ne soit envoyé dans des décharges, qu'on enterre ça ou qu'on sache pas quoi en faire ou qu'on l'envoie dans l'espace. Le stockage en réseau dans les États à forte demande comme la Californie est une destination utile pour ces blocs de batterie et pourrait potentiellement réduire les coûts de stockage de 40 %.
Ouais, quand même, quand même.
Fait que tout n'est pas perdu et encore une fois, un bel exemple d'innovation que, tu sais, à long terme, on ne sait pas qu'est-ce que ça pourra donner. Mais ce sont toutes des pistes de solutions intéressantes. Oh, ouais, c'est ça.
Juste adresser un commentaire là, dans le chat. Là. Frosted dit, ça s'est passé, là, en parlant des jeunes hockeyeurs, ça s'est passé entre ados. Vous voulez vraiment mettre des adultes dans le vestiaire pour gérer les pulsions des jeunes, rendre les adultes responsables du comportement sexuel des jeunes? Je sais pas. Mais moi, je le sais, Frosted, on parle pas de s'immiscer dans leur vie sexuelle puis leur vie amoureuse. On parle de mettre fin à des viols, des agressions sexuelles. On parle pas de vie sexuelle des jeunes. On parle de viols qui violent, des agressions violentes qui font des victimes. C'est à ça qu'on veut mettre fin. Leur vie sexuelle comme telle, on s'en sacre, c'est pas de nos affaires. Sauf que quand ça inclut des viols et des agressions sexuelles traumatisantes, ben là, la justice, faut qu'elle s'en mêle. Puis la justice, ben, c'est géré par les adultes, Frosted. Je sais pas, ben, c'est quoi ton point là-dedans? Là? Je comprends pas.
Frosted, là, relis-toi puis repense à ça. Parce que là, quand tu parles de gérer les pulsions des jeunes... moi, quand j'étais jeune, j'ai pas eu de pulsion de rentrer un bâton de hockey dans le cul d'un de mes chums.
De force, surtout.
Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas ce que tu veux dire par là, mais c'est mieux qu'on s'arrête là, parce que je pense que tu voudras peut-être reformuler cette affaire-là. Parce que
on va te donner la chance de reconsidérer ton opinion, là, en étant conscient qu'on parle pas de leur vie sexuelle avec leur petite blonde puis leur petit chum, là. On parle d'agression violente, de viol, de torture, de sévices sexuels. Puis c'est plate, mais on va finir le show là-dessus. On se reparle demain à midi. Salut.
De la famille H2O Web Media.